candidat, c'est un signal d'alarme.
Si les détracteurs de Kagame affirment qu'il est resté trop longtemps au pouvoir, d'autres disent qu'il a beaucoup fait pour le pays.
Les résultats sont tangibles, on peut les voir.
En Afrique du Sud, le Congrès national africain au pouvoir depuis 30 ans n'a pas réussi à remporter les législatives avec une majorité absolue, ce qui l'a contraint pour la première fois de son histoire à former un gouvernement de coalition.
Et pour ce débat, mes invités, nous avons de Paris via Skype René Lake, consultant et analyste politique, et de Rotterdam aux Pays-Bas, Henri Désiré Nzosi, producteur de JT Diplomatique, analyste politique et géopolitique, pardon, et nous ferons deux arrêts au Mali, et en Côte d'Ivoire pour revenir sur la situation dans le Sahel et un retour sur la CAN avec nos correspondants sur place. René Lake, on l'a suivi dans le reportage, le Sénégal, le Ghana, Namibie, Mozambique ou encore le Botswana et bien d'autres. En quoi ces élections ont-elles marqué un tournant dans l'évolution de la démocratie en Afrique? Sont-elles le signe d'une maturité politique ou d'une fragilité persistante selon vous?
Ah, c'est une question extrêmement difficile parce qu'on peut répondre dans un sens comme dans l'autre. Mais ce qui est certain, il me semble, c'est que la démocratie électorale semble être une réalité sur le continent, mais elle n'est pas synonyme de démocratie effective, de démocratie citoyenne, de démocratie participative. Et c'est bien cela la question. Et à mon avis, c'est un peu cela qui explique la crise pratiquement démocratique qu'il y a à travers le monde, mais en Afrique en particulier, parce qu'elle n'est pas participative. Et donc, beaucoup de populations ne se retrouvent pas dans le jeu politique, et surtout ne se retrouvent pas dans la gouvernance de leur pays, ce qui explique toutes ces oppositions qui ont remporté les élections.
Dans certains pays comme le Botswana, on a vu la victoire qualifiée d'historique de certains partis d'opposition. Est-ce qu'on peut considérer ces élections comme un indicateur d'un changement durable dans la dynamique politique africaine, ou risque-t-elle de rester des exceptions, M. Nzosi?
Ben, ce que l'on voit en tout cas comme tendance qui s'est concrètement dégagée, c'est que les partis traditionnels ont été soit battus, soit bousculés, ce qui montre bien l'offre nouvelle politique qui est proposée aux électeurs. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire René pour dire que cela n'est pas forcément synonyme de démocratie. On l'a vu effectivement, que ce soit au niveau de l'Afrique du Sud avec une ANC bousculée, contrainte même de former une coalition pour gouverner. Il y a une véritable prise de conscience de la part des électeurs et surtout une prise en compte rationnelle des vrais enjeux économiques, notamment sociaux, sécuritaires, qui changent concrètement le logiciel des électeurs et qui pousse effectivement certains partis d'opposition à pouvoir présenter des candidats comme au Sénégal, effectivement, crée la surprise. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Il faut s'en réjouir, tout en espérant simplement que la dynamique que l'on a observée tout au long de 2024 sera poursuivie dans les prochaines années.
L'un des grands moments de l'actualité africaine cette année, c'est bien sûr l'annonce des États du Sahel, l'AES, de le retrait du bloc régional, la CDAO, et du bras de fer qui s'en est suivi. Pour en parler, nous avons en ligne depuis Bamako Mohamed Danioko. Bonsoir Mohamed. Alors, la tension entre l'AES et la CDAO aura duré toute cette année et il n'en est pas encore à sa fin.
Exactement, Alexandrine, ça continue. Hein. L'année 2024 a d'ailleurs commencé avec l'annonce des États de l'AES de se retirer de la CDAO de façon immédiate. Et voilà. Mais la CDAO, par rapport à ces textes, avait en tout cas dit qu'il faut attendre une année. Et une année, ça correspond au 29 janvier 2025. Et plus récemment, lors du sommet de la CDAO, 6 mois de sursis ont été donnés. Et pour continuer les négociations, on sait aujourd'hui que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le président togolais Faure sont en mission pour essayer de concilier les positions.
Ce souci avec la liaison avec Mohamed Danioko, je vous remercie tout de même Mohamed, je reviens à mes invités. Monsieur Lake, on a cette une actualité hein, qui nous a tenu en haleine tout au long de l'année. Vont-ils revenir au sein de la CDAO? Vont-ils partir définitivement? Mais là maintenant, on a l'impression que le divorce est définitivement consommé.
Oui, c'est l'impression que l'on a, mais espérons que les efforts sénégalais et togolais vont porter leurs fruits. Je sais que le négociateur principal pour le Sénégal, Abdoulaye Bachili, le professeur Abdoulaye Bachili est un diplomate chevronné, un grand connaisseur de l'Afrique, un grand panafricaniste lui-même, et qu'il arrivera peut-être sinon à ramener les pays de l'AES à la CEDEAO, mais au moins à trouver des formes de compromis qui permettent à la CEDEAO de continuer à se renforcer éventuellement, mais surtout à améliorer son rapport aux populations de la CEDEAO, parce qu'il n'est pas contestable que les critiques des pays de l'AES vis-à-vis de la CEDEAO sont ressenties par les populations, que ce soit à la fois les élites qu'au niveau communautaire. Donc il y a beaucoup à reprocher à la CEDEAO et il serait peut-être grand temps qu'elle se réforme de l'intérieur. Mais ce serait une bonne chose si le divorce ne devait pas être prononcé définitivement.
Monsieur Jouzi, vous avez suivi cette actualité avec nous, que vous avez même décrypté dans cette émission. Comment avez-vous apprécié ces dernières négociations entre la CEDEAO et l'AES, notamment le délai de 6 mois que la CEDEAO a donné au pays de l'AES, mais qui refuse finalement d'accepter ce délai et de sortir dans l'immédiat?
Il faut rappeler que c'est l'article 91 de la charte constitutive de la CEDEAO qui prévoit les modalités de sortie avec une notification au secrétariat exécutif de la CEDEAO. Ces démarches n'avaient pas été entreprises par les trois pays. On le voit aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous retrouvons avec effectivement ces 6 mois de sursis. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ces trois pays, Burkina, Mali, Niger, sont dans une logique de rupture. Et donc le point de non-retour semble être atteint, indépendamment du fait que les deux parties sont tout à fait d'accord sur le fait qu'elles ont beaucoup à perdre. Je rappelle que ces trois pays qui sont aujourd'hui au cœur de la confédération des États du Sahel sont des pays enclavés, ça veut dire qu'ils seront très dépendants et tributaires des autres pays qui ont une façade maritime pour leurs exportations et leurs importations. Et c'est pour cette raison, justement, que la CEDEAO essaye précisément de créer les conditions d'un dialogue qui puisse rendre ce divorce le moins douloureux possible. Cela étant, on le voit, il y a d'autres acteurs majeurs et non des moindres qui frappent déjà à la porte de ces trois pays pour essayer.
Vous faites allusion à la Russie ?
Entre autres choses, qui propose une alternative qui pourrait éventuellement les mettre à l'abri de pas mal de difficultés. Mais le principal sera, à mon avis, préservé, c'est-à-dire la libre circulation des biens et des personnes. En tout cas, des modalités pratiques devront être mises en place et cela semble être la lettre et l'esprit de la démarche qu'entreprennent actuellement le président togolais, le président sénégalais.
Finalement, je me demande si on comprend bien le message des dirigeants de l'AES, le message qu'ils veulent faire passer en annonçant ce retrait de la CEDEAO. Comment vous comprenez-vous, Monsieur Leek, ce retrait?
Je vous avoue que pour ma part, c'est relativement incompréhensible, sauf si, bien entendu, on pense que la question centrale pour ces trois pays, ça reste la question sécuritaire et qu'il est possible de trouver une solution, justement, avec de nouvelles alliances, y compris avec les Russes. C'est un pari qui me paraît fort risqué. En tout cas, pour l'instant, cela ne semble pas marcher, d'autant plus que la Russie elle-même est empêtrée dans un conflit en Ukraine, empêtrée au point qu'elle est obligée même de faire appel à des troupes étrangères, notamment nord-coréennes, pour les soutenir dans cette guerre. Donc j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt au-delà maintenant de considérations d'ordre politique interne, parce que cela aussi, il ne faut pas l'exclure, l'arrivée au pouvoir par coup d'État n'est pas facile quand il s'agit de chercher à s'y maintenir, et c'est sûr que ce type de situation relativement chaotique, parce que c'est le cas pour certains de ces pays, notamment le Mali, est relativement proche du chaos, ça permet également aux gens qui sont aux affaires d'y rester.
On a demandé à nos téléspectateurs quelle actualité les a marqués en 2024. Je vous propose quelques commentaires recueillis sur la page Facebook de VOA Afrique. Massaoudou Kimba du Niger nous dit que le départ forcé de l'armée française du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso et du Tchad, après plus de 6 décennies de présence illégale et légitime, c'est ce qui l'a marqué en 2024. Pour Somdou Aliou de Mamou, en Guinée, les élections présidentielles américaines américaine. Trump est de retour avec ce score épatant qui dépasse largement le seuil de 270 grands électeurs. Il a compris que ceux qui n'abandonnent pas gagnent et ceux qui abdiquent ne réussissent jamais. Yao Marcelin Fofi de la Côte d'Ivoire nous dit que l'événement qui l'a marqué le plus au cours de l'année 2024, c'est la maturité démocratique dont fait preuve le Ghana avec le retour au pouvoir de l'ancien président John Dramani Mahama. Cette culture d'alternance politique manque à de nombreux pays africains, surtout francophones. Vivement que nos États ne soient plus hostiles à la démocratie à partir de l'année 2025. Merci pour vos différents commentaires et actions. Les élections au Sénégal sont aussi revenues à plusieurs reprises dans les commentaires et bien sûr la chute de Bachar al-Assad en Syrie. On se retrouve juste après la pause pour la suite de ce débat dans Washington Forum sur VOA Afrique. Tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day.
Dans des Full B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Full Day.
Avec vous dans Washington Forum sur VOA Afrique, on fait le bilan de 2024 avec un retour sur les grandes actualités enregistrées au cours de l'année avec mes invités de Paris via Skype, René Lake, consultant et analyste politique. Notre invité, Henri-Désiré Ndozi, producteur de JT diplomatique, analyste géopolitique que nous essayons de reconnecter à cette émission. Monsieur Lake, beaucoup l'ont mentionné, Donald Trump est élu président des États-Unis après que les Américains se sont rendus aux urnes le 5 novembre. Couronnant un retour remarquable 4 ans après avoir été chassé de la Maison Blanche. Preuve que ceux qui n'abandonnent pas gagnent, selon le commentaire de notre téléspectateur tout à l'heure. Quelle lecture avez-vous faite de la réélection de Donald Trump?
Écoutez, c'était une surprise. Je crois qu'il y a 6 mois, personne n'envisageait un tel scénario, en tout cas l'envisageait difficilement. Mais avec la situation, je crois que le mot générique de situation est très approprié ici, la situation de Joe Biden a été telle que, bon, c'est à la dernière minute que Kamala Harris a dû se lancer dans la course, 107 jours pour faire une campagne électorale. Et de toute évidence, ça n'a pas marché. Ce n'était de toute évidence pas suffisant. Mais il y a un certain nombre d'observateurs qui considèrent aussi que, d'un point de vue du discours, il y avait un problème de pertinence. En tout cas, il est évident qu'il n'y a pas eu de résonance au niveau des populations américaines. Donc, effectivement, on peut penser que la persévérance de Donald Trump, qui lui s'est préparé pendant 4 années sans répit, de toute évidence, cela a marché.
Pensez-vous que cette année marque un tournant dans la façon dont nous percevons les élections de manière générale? On a parlé de l'Afrique tout à l'heure, du retour au pouvoir des partis d'opposition et de la réélection surprise pour certains de Donald Trump ici aux États-Unis. Est-ce que cela marque un tournant dans la façon dont nous percevons les élections?
Oui, je crois que le tournant principal, c'est le rapport entre l'offre et la demande citoyenne. L'idée que certains politiques, que certains leaders ont qu'ils peuvent à la limite présenter à peu près tout et n'importe quoi aux populations et que cela va marcher, on n'est plus tellement dans ces schémas-là. On n'est même plus dans des schémas de cohérence même dans la proposition programmatique. Le schéma dans lequel on est, c'est que c'est un schéma de protestation, parce que moi je crois que ce que l'on constate, ce n'est pas tellement une adhésion à des nouvelles approches, mais c'est plus une remise en cause, un rejet des anciens des systèmes. Et donc les populations quelque part se disent tout ce qui nous permet au fond de déstabiliser le système qui n'est pas favorable aux intérêts des populations, il faut y aller. C'est comme ça que l'on explique ce qui se passe en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, en Pologne, la liste est longue, en Italie et même bien entendu dans plusieurs pays africains.
On veut marquer un arrêt, on va en Côte d'Ivoire pour revenir sur la CAN qui a tellement fait parler d'elle. La CAN, le sport roi, le football qui a mobilisé des milliers de spectateurs. Pour la CAN, c'était en janvier 2024. On retrouve Ange Bijoux-Nomignon. Bonsoir Ange. Vous avez couvert pour VOA Afrique la CAN à Abidjan, cet événement qui a mobilisé des milliers de spectateurs.
Oui, effectivement Alexandrine, des milliers de téléspectateurs, et pour vous dire... pour vous donner une idée, à travers le monde, selon la présidence de la République ivoirienne, plus de 2 milliards de personnes ont suivi cette CAN à travers le monde. Donc c'est vous dire que toute l'Afrique était donc présente à cette CAN. Et nous autres journalistes qui étions présents sur le terrain, dans les rues d'Abidjan, mais également à l'intérieur du pays, on a pu constater cette forte mobilisation de plusieurs pays dans les restaurants, les espaces CAN, mais également dans les stades. Et pour vous donner un exemple, le match Sénégal-Côte d'Ivoire que nous avons suivi, il y a eu tellement de forte mobilisation sénégalaise qu'on aurait cru que c'était nous étions à Dakar, donc avec les tambours, et l'ambiance était vraiment très festive. Mais également dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire, on a pu constater qu'il y avait donc une forte mobilisation des supporters guinéens, maliens, burkinabés qui ont répondu présents. Et lors de leur match, le stade était donc toujours bondé, et tout cela dans une ambiance de fête. Et donc à la fin, le président de la Confédération africaine de football a qualifié cette CAN 2023 la meilleure de l'histoire de la CAF.
Je vous remercie pour ce récapitulatif, Ange Bijoux-Nomignon, correspondant de VOA Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous revenons vers vous, Monsieur Lake. Pour vous, quelles sont les grandes tendances ou événements à venir et que vous allez suivre avec attention?
Écoutez, pour 2025, Alexandrie, j'en vois 4 ou 5. Le premier, ça va être la question monétaire, notamment au niveau de l'UMOA. Quel va être l'avenir du franc CFA, non seulement pour les pays qui resteront dans l'UMOA, mais même ceux qui éventuellement pourraient en sortir, notamment avec ce dont nous avons parlé tout à l'heure, l'AES. Donc ça, c'est vraiment la première grande question. La deuxième, c'est celle de la question sécuritaire, encore dans les pays du Sahel. Non seulement les trois pays que nous avons déjà cités, mais y compris même des pays adjacents comme le Sénégal, dans quelle direction on va aller? Je pense que il n'est pas facile, là où on est au mois de décembre 2024, de se projeter. La troisième, c'est la question de l'intégration, l'intégration régionale, notamment quel sort pour la FEDEAO, est-ce qu'elle arrivera à se renforcer, à se réformer de l'intérieur et peut-être à redevenir attractive pour les pays qui entendent la quitter. La quatrième, ça serait un peu les situations politiques. Alors une, d'abord, la question de l'inclusion dans un pays comme le Sénégal, où la question semble se poser. Le nouveau gouvernement PASTEF est porteur d'immenses espoirs dans le pays. Ils sont arrivés à prendre le pouvoir avec un soutien populaire inégalés, arriveront-ils à gouverner en restant repliés sur eux-mêmes ou plutôt en étant plus inclusifs, en incluant d'autres forces politiques? C'est la grande question. Et l'autre question politique, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que Alassane Ouattara va préparer sa succession ou est-ce que l'on va retourner dans un remake de la dernière élection? Voilà un peu de mon point de vue les grandes questions de 2025 pour l'Afrique, en tout cas l'Afrique francophone.
Sur le plan mondial, il y a de grandes actualités que nous n'avons pas mentionnées, notamment la crise en Ukraine et la guerre actuellement dans la bande de Gaza. Comment voyez-vous l'issue de ces deux conflits?
Difficile de dire pour le deuxième par rapport à la bande de Gaza et par rapport à Israël ou même son prolongement par rapport au Liban. Mais pour le premier, je crois que l'intention ferme de Donald Trump de mettre un terme à cette guerre et me paraît assez prononcée. Maintenant, il me semblerait, en tout cas si on devait anticiper une paix dans cette zone, par rapport à ce conflit, ce serait certainement de toute évidence au détriment des Européens, au détriment de l'Ukraine en particulier, puisqu'il s'agirait de constater la perte importante de territoire ukrainien au bénéfice des Russes. J'ai l'impression que c'est plutôt le schéma dans lequel nous allons, plutôt que la poursuite indéfinie d'un conflit que les Ukrainiens ne semblent pas être en mesure de gagner pour l'instant en tout cas.
Alors, on a parlé des élections, des mouvements sociaux, de tout ce qui n'a pas fonctionné en 2024, mais il y a eu également des changements, petits ou grands. Pour vous, quels sont ces changements que vous espérez voir ou bien revoir en 2025?
Les changements en Afrique, à travers le monde, à quel niveau?
Surtout en Afrique, restons sur l'Afrique.
Oui, écoutez, je crois que le défi, c'est vraiment le défi d'un changement de paradigme par rapport à la question démocratique. Je crois que les populations, en particulier les jeunesses africaines, sont de plus en plus informées, sont de mieux en mieux informées, sont très au courant, sont très déterminées par rapport à leurs ambitions et souhaitent être des acteurs de gestion de leur pays, ceux qui ne le sont pas. Donc cette démocratie juste électorale où tous les 4 ans, tous les 5 ans, on élit de nouveaux leaders, cela n'est pas suffisant. Les jeunesses veulent participer au développement et elles ont une exigence de transparence, de moralité, de décence qui est très élevée. Et je crois que ça va avoir un impact dans la manière dont nos pays vont être gérés à l'avenir. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite.
Et ce sont des... Nous espérons, bien sûr, vous retrouver pour le décryptage de ces actualités en 2025. Je vous remercie pour votre participation, René Lake. Nous n'avons malheureusement pas pu reconnecter Henri-Désiré Nzouzi à cette émission avant la fin. Merci beaucoup pour votre présence et votre disponibilité pour les commentaires sur VOA Afrique. Et je vous souhaite une belle année 2025.
Merci à vous aussi, Alexandrine.
Et merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité à ce programme, à Washington Forum sur VOA Afrique. Nous espérons vous retrouver à chaque jeudi. Le rendez-vous, c'est à 19h, en temps universel, sur VOA Afrique, à travers nos télépartenaires et également nos sites web et notre plateforme YouTube. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité à tous les programmes de VOA Afrique. Je vous retrouve, bien sûr, sur d'autres programmes et vous souhaite une très bonne soirée et une bonne année 2020.
la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Tchossan FM 105.8, notre station partenaire à Tobatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, la VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par des jeunes journalistes sénégalais.